on commence avec les grands titres de l'actualité pour ce 23 septembre. Escalade verbale, encore une fois, entre la Corée du Nord et les États-Unis. Les membres de l'ONU commencent à s'inquiéter. Le Brexit, la Grande-Bretagne semble mettre de l'eau dans son vin avant les débuts d'une nouvelle phase de négociation ce lundi. Et en France, le président Emmanuel Macron signe les ordonnances sur la loi du travail. Et on débute ce journal avec le feuilleton diplomatique de ces derniers mois entre la Corée du Nord et les États-Unis. Un feuilleton qui se poursuit, escalade verbale qui continue entre les deux chefs d'État Kim Jong-un et Donald Trump. Le point avec Anne Corpé.
Si ces échanges ne se déroulaient pas sur fond de sérieuses menaces de guerre nucléaire, il y aurait presque de quoi rire, tant la sémantique employée par les deux hommes tranche avec le langage habituel des chefs d'État. Kim Jong-un de Corée du Nord est visiblement fou. Il sera mis à l'épreuve comme jamais auparavant, a lancé le président américain sur Twitter. Donald Trump répondait à la déclaration de Kim Jong-un, écrite, et c'est rare, à la première personne, dans laquelle il traitait le président américain d'homme sénile, dérangé mentalement. Le leader nord-coréen s'était jusqu'à présent abstenu de répondre aux qualificatifs peu flatteurs employés par Donald Trump comme maniaque, dérangé du cerveau ou encore complètement idiot. Mais les propos du président américain devant l'Assemblée générale de l'ONU, il avait menacé la Corée du Nord de destruction totale, l'ont cette fois poussé à riposter. Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères a d'ailleurs annoncé à New York que son pays envisageait de faire exploser une bombe à hydrogène au-dessus du Pacifique. Ici, à Washington, les commentateurs commencent à s'inquiéter de cette escalade verbale qu'ils jugent indigne et surtout risquée.
Voilà, donc c'était Anne Courpet à Washington pour RFI. Quelques réactions. On va commencer bien avec celle de Julie Bishop, la ministre des Affaires étrangères australienne. C'était devant l'ONU.
Australia will play our part in helping to resolve this crisis. We've already put in place a range of autonomous sanctions beyond that mandated by the Security Council. We will explore further options should North Korea continue its flagrant disregard of the views of the international community as upheld by the Security Council.
Voilà, donc Julie Bishop, la ministre des Affaires étrangères australienne aux Nations Unies, l'ONU d'ailleurs, qui déclare vouloir des explications des officiels nord-coréens. On écoute Stéphane Dujarric, c'est le porte-parole des Nations Unies.
Secretary General looks forward to the meeting. I don't want to set any expectations. It's obviously important for him to have be able to have direct discussions with a senior representative of the DPRK, and the message he will deliver is that a wish to see denuclearization of the Korean Peninsula, and very much hoping that the unity we've seen in the Security Council will create an opportunity for a political discussion.
Voilà, donc Stéphane Dujarric, le porte-parole des Nations Unies. 13h04, direction le Kurdistan maintenant, où un référendum sur l'indépendance aura lieu ce lundi. Un référendum jugé inopportun par les Occidentaux au moment où l'Irak commence à envisager un avenir débarrassé du groupe État islamique. Ceci suscite des velléités de l'Iran et de la Turquie. Ils y voient du mauvais œil l'organisation de ces élections. Les explications avec Toufik Benaïchouch.
Ces élections, en fait, sont divisées en trois étapes. Ce vendredi, des élections communales se tiennent pour élire l'équivalent d'un comité dirigé par des maires. Le 3 novembre, un nouveau vote désignera des conseillers municipaux. Enfin, le 19 janvier prochain, les Kurdes de Syrie éliront des conseils législatifs pour chaque canton et une assemblée législative pour toute la région fédérale. Les Kurdes de Syrie, ce sont 15% de la population syrienne. Longtemps opprimés par le régime syrien, ils ont profité de la guerre qui ravage la Syrie depuis 2011 pour établir une autonomie de fait dans les territoires qu'ils contrôlent, dans le nord et le nord-ouest du pays. Ils se défendent de vouloir établir un État kurde ou même de se détacher de la Syrie, mais ni Damas, ni Ankara, toujours aux aguets lorsqu'il s'agit des Kurdes, ne les croient sur parole. Ils ont pourtant des arguments. Dans le nord de la Syrie, ce sont eux qui ont chassé les djihadistes de l'État islamique. Ils ont été, et sont toujours d'ailleurs, incontournables dans cette lutte, forts de surcroît du soutien des États-Unis. Mais même ces derniers sont hostiles à ces élections, entre autres pour ne pas se mettre à dos la Turquie.
Toufik Benaïchouch. La première ministre britannique fait le choix de la conciliation avec l'Union européenne, alors qu'une nouvelle phase de discussion du Brexit débutera lundi. Dans un discours hier à Florence, en Italie, Theresa May a plaidé pour un Brexit soft, avec une période de transition de 2 ans. Les explications de Muriel Delcroix.
L'intervention florentine de Theresa May suffira-t-elle à débloquer les négociations entre Londres et les 27 ? C'est ce qu'espère en tout cas la dirigeante britannique qui a ostensiblement adopté une approche plus conciliante avant la reprise des pourparlers lundi prochain, et notamment sur la question de la facture de sortie. Je ne veux pas que nos partenaires craignent de devoir payer plus ou recevoir moins pour le reste du budget en cours à cause de notre départ. Le Royaume-Uni honorera les engagements pris précédemment.
Autre concession, la dirigeante a souhaité que les tribunaux britanniques prennent en compte les jugements de la Cour européenne de justice lors de décisions concernant les droits des citoyens européens. Mais Theresa May a aussi signalé les premiers changements sur l'immigration lors de la période de transition.
Pendant cette période, les gens seront toujours libres de venir et même de travailler au Royaume-Uni. Mais il y aura un système d'enregistrement, une préparation essentielle au nouveau régime.
Enfin, soulignant les liens historiques avec ses amis européens, la Première ministre a exclu l'idée de relations commerciales copiées sur le modèle canadien ou norvégien et souhaité un accord sur mesure. Première réaction de Bruxelles, le négociateur européen Michel Barnier a loué l'esprit constructif de Theresa May tout en attendant plus d'explications. En clair, élève motivé, mais peut mieux faire.
Et c'était un reportage de Muriel Delcroix. Écoutez également eh bien, la réaction de Jeremy Corbyn, le leader de l'opposition travailliste en Grande-Bretagne.
Le référendum, c'était il y a 15 mois. Et la première ministre se décide finalement à faire face à la réalité. Elle se rend compte qu'il va falloir une période de transition. Elle a eu 15 mois pour y penser et elle va jusqu'à Florence, sans même d'ailleurs nous montrer un peu la ville derrière elle, pour nous dire ce que nous savions déjà. Bien sûr qu'il faut une période de transition pour protéger les emplois. Notre principal objectif a toujours été de dire qu'un Brexit qui mettrait en péril l'emploi serait très très dangereux pour tout le monde au Royaume-Uni. En fait, ce discours me semble davantage le produit de négociations internes au sein du Parti conservateur que de négociations avec l'Union européenne.
Voilà donc Jeremy Corbyn, le leader de l'opposition travailliste en Grande-Bretagne. Les Rohingyas continuent d'affluer au Bangladesh, chassés par les opérations de l'armée birmane. Médecins sans frontières dénombre plus de 450 000 réfugiés dans ces camps. Écoutons Robert Roussouf, il est coordinateur de MSF dans la région.
Certains ont traversé la jungle pendant des semaines, survivant avec le peu de choses qu'ils avaient pu récupérer chez eux. Et là, ils arrivent au Bangladesh, dans des conditions météorologiques difficiles. Il y a parfois des pluies torrentielles, parfois le soleil est écrasant. Ils tentent alors de se construire des abris et de reconstruire un semblant de vie en s'appuyant sur le peu qu'ils ont pu amener avec eux et sur ce qu'ils ont pu récupérer auprès de la population locale. Il y a parmi eux une grande proportion de femmes et d'enfants. C'est un signal d'alerte pour nous, parce que c'est une population encore plus vulnérable, surtout les jeunes enfants, qui à ce stade de leur vie sont plus prompts à attraper des maladies, surtout lorsqu'ils vivent dans des conditions aussi spartiates. Nos équipes médicales sont positionnées sur les divers points où arrivent ces gens et nous essayons de les trier et de différencier les personnes qui sont malades de celles qui sont très malades. Certaines souffrent de maladies, d'autres de blessures qui leur ont été infligées en Birmanie.
Voilà donc Robert Roussouf, coordinateur de Médecins sans frontières. En France maintenant, le président Emmanuel Macron a signé les ordonnances entérinant les modifications au Code du travail. Ça s'est passé hier, c'était à Paris. Reportage Anthony Latier.
Une mise en scène à l'américaine. Emmanuel Macron, dans un bureau de l'Élysée, entouré de la ministre du Travail Muriel Pénicaud et du porte-parole du gouvernement Christophe Castaner, paraffant les 5 ordonnances devant les caméras. Il s'agit d'une réforme en profondeur, inédite du marché du travail, assure le président sous le crépitement des photographes. Jamais une réforme n'a été mise en œuvre en aussi peu de temps, se félicite Emmanuel Macron. Cette scénarisation, déjà utilisée la semaine dernière lors de la promulgation de la loi sur la moralisation de la vie publique, est une manière de montrer que le chef de l'État applique son programme 4 mois après son élection. Le gouvernement garde le cap malgré les manifestations et à la veille d'une marche à Paris organisée par Jean-Luc Mélenchon. Le chef de la France insoumise et plusieurs syndicats espèrent encore pouvoir faire reculer Emmanuel Macron, qui lui veut tourner la page au plus vite et passer aux réformes suivantes. Les ordonnances entreront en vigueur en principe en début de semaine prochaine, après leur publication au journal officiel.
Et c'était un reportage d'Anthony Latier pour RFI. 13h11, coup d'œil météo maintenant à travers le pays pour aujourd'hui. À Perth, il fera 18 degrés. Adélaïde, 21. Melbourne, 25 degrés. Hobart, 20. Canberra, 29. Sydney, 33 degrés. Brisbane, 31. Cairns, 30 degrés. Et Darwin, 33 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour ce 23 septembre. Escalade verbale, encore une fois, entre la Corée du Nord et les États-Unis. Les membres de l'ONU commencent à s'inquiéter. Brexit, la Grande-Bretagne semble mettre de l'eau dans son vin avant un début d'une nouvelle phase de négociation lundi. Et en France, on vient de l'entendre, le président Emmanuel Macron a signé les ordonnances sur la loi du travail.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench